Ce matin, j'aimerais pour ce temps de prédication partir d'un texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5. C'est un texte un peu long, on va commencer au verset 21. Et on ira jusqu'au chapitre 6, le verset 9 du chapitre 6. Mais donc, Éphésiens, chapitre 5, verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ainsi les femmes à leur mari, comme au Seigneur. Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux feront une seule chair. Il y a là un grand mystère, et je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais comme des esclaves du Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez de bon gré, comme des esclaves du Seigneur et non comme ceux des humains, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recueillera du Seigneur le bien qu'il aura fait lui-même. Quant à vous, maître, agissez de même à l'égard de vos esclaves. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et qu'il n'y a pas de partialité. Ici notre lecture. C'est un texte que je qualifierais de difficile. Pas forcément de difficile à comprendre avec des références obscures, et peut-être c'est ça qui le rend difficile, il est assez simple à comprendre. Il est assez simple à comprendre, mais dans une société comme la nôtre, une société égalitaire, place l'égalité comme une valeur très haute, comme un dû, comme un droit de base, eh ben, ce texte, il dérange et il nous dérange. Et le contexte dans lequel on est, le contexte d'égalité, et là, ce texte nous parle justement de soumission, ce qui nous semble être en contradiction, eh ben, ça peut nous amener à aborder le texte de façon erronée. Le travail de celui qui étudie la Bible, c'est de faire de l'exégèse, tirer du texte ce que le texte veut dire. Mais quand on arrive sur le texte avec des idées fortes, il se peut qu'on fasse de l'exégèse, en posant, en plaquant notre pensée sur le texte. Et c'est ce genre de texte où il est facile de le faire. Si on trouve que l'égalité est quelque chose qui se pose de base, on peut avoir envie de trouver dans le texte, de montrer que ce texte ne dit pas ce qu'il a l'air de dire, mais que vraiment l'égalité est présente, et chercher à le calquer et à le forcer. Et au contraire, dans ce débat-là, si on veut maintenir et ne céder aucun pouce sur un ordre où les gens sont placés les uns par rapport aux autres, eh bien, on peut refuser de regarder le texte avec honnêteté, parce qu'on a déjà son idée sur la façon dont on l'interprète. Et c'est en ça que ce texte est difficile, il me semble, parce que on peut facilement y arriver avec des idées toutes faites et ne pas se laisser interpeller par ce texte. C'est ce qu'on va essayer de ne pas faire. On va essayer de prendre ce texte et de le comprendre dans ce qu'il veut nous dire. Le texte est un peu long, je l'ai dit. Voilà. Vous ne lisez rien, c'est normal. Ce que j'aimerais, c'est dégager une idée générale, des principes généraux pour aborder ce texte, pour pouvoir mieux le comprendre quand on le regardera dans le détail. Le regarder dans le détail, ce n'est pas pour ce matin, mais voilà, regarder une idée générale. Et l'idée générale, je crois que c'est le verset 21 qui sert d'introduction. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Alors, il y a des débats sur ce verset. Est-ce qu'il se rattache au passage qui vient d'avant, comme une conclusion du passage d'avant, ou est-ce qu'il se rattache au passage après, comme une introduction à tout ce qu'on a lu? Vous vous doutez que si j'ai découpé le texte ainsi, c'est que je pense qu'il se rattache à la suite. Et le plus grand argument que je vois pour le rattacher à la suite, c'est que le verset 22 n'a pas de verbe. « Ainsi, femme à vos maris », ce qui montre qu'il y a un lien avec le verset 21, « Soumettez-vous les uns aux autres ».« Soumettez-vous les uns aux autres », c'est le message général du passage qui est ensuite développé dans tout le reste du passage que nous avons lu, jusqu'au chapitre 6, jusqu'au verset 9 du chapitre 6. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Il y a une expression sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est les uns aux autres. Les uns aux autres, ça nous indique plusieurs choses. Et je crois que ça nous indique déjà, et il faut y être attentif, que ce texte s'adresse à des chrétiens. À des chrétiens qui sont là, pour écouter la lecture de l'épître de Paul. C'est à eux que ça s'adresse. Soumettez-vous les uns aux autres. Et là, Paul n'est pas en train de définir la façon dont le monde doit se comporter. C'est à des chrétiens qu'il s'adresse. Il n'a pas l'objectif de réguler la société. Et ça, il faut s'en souvenir. Ce texte s'adresse à des chrétiens. Des chrétiens qui veulent vivre ce commandement dans la réciprocité, les uns les autres. C'est-à-dire que quand les uns essaient, les autres aussi essaient. Et on essaye ensemble et on progresse ensemble. Ce n'est pas un appel à se soumettre aux puissants qui pourront continuer à vous écraser tranquillement. C'est un appel à la soumission mutuelle, sachant que, dans le cadre chrétien, on peut espérer que ce soit réciproque. En tout cas, ça devrait l'être, et tous les chrétiens sont destinataires de ces encouragements. Une parenthèse, comment faire avec des non-chrétiens? Comment vivre? Je crois que ce que la Bible et le Nouveau Testament nous enseignent, c'est vivre à peu près de la même façon, sauf que cette réciprocité, eh bien, on ne l'attend pas. Et c'est ça qui change, et ça change quand même pas mal de choses entre chrétiens. Nous devrions vivre la réciprocité dans les efforts que nous faisons. Un verset d'introduction et qui ensuite est développé, et qui est développé en 6 parties. Et ces 6 parties, elles commencent avec ce qu'on appelle une apostrophe. À chaque fois, Paul dit à qui il s'adresse : femme, mari, enfant, père, esclave et maître. Et je crois que là encore, c'est important, il faut y être sensible, parce que Paul s'adresse à chacun, et c'est une soumission, c'est dit « soumettez-vous les uns aux autres » et non pas « soumettez-vous les uns les autres ». C'est « nous nous soumettons chacun aux autres » et non pas « chacun nous essayons de soumettre les autres ». Et cette apostrophe, ces 6 apostrophes nous le rappellent. À la limite, quand Paul dit « femme », les autres peuvent arrêter d'écouter, parce que ça concerne les épouses. Et quand il enchaîne, Marie, les autres peuvent arrêter d'écouter, ça concerne les maris. Ce n'est pas un texte qui donne des arguments pour dire aux autres, tu fais mal, voilà ce que tu dois faire. C'est un texte qui vient me parler à moi, pour me dire ce que moi je dois faire, et la façon dont je dois vivre l'évangile dans ma vie. Quand on est sur la structure, l'organisation du texte, on n'est pas seulement avec 6 paragraphes, on est plus exactement avec 3 paires de 2 paragraphes. Femme, mari, enfant, père, esclave, maître. Alors, des précisions, quand il écrit femme, il parle des épouses. Ce texte ne parle pas de la place de la femme dans l'Église, par exemple, mais vraiment des relations dans le couple. 3 paires de personnes avec, je le crois, une subordination entre eux. Et c'est le subordonné qui est d'abord. Les esclaves sont interpellés avant les maîtres. On comprend que l'esclave doit être soumis à son maître. C'est le principe de l'esclavage, même si on n'est pas forcément des grands fans de l'esclavage, c'est le principe. Les enfants doivent être soumis à leurs parents. Et enfant, à l'époque, c'est quand même quelque chose d'un peu plus... on y reviendra sur le contexte social. Et les femmes, du coup, à leur mari. C'est la partie sans doute la plus choquante aujourd'hui, la partie qu'on a du mal à entendre. Il y a un lien comme ça qui est établi par Paul. J'aimerais dire un mot du contexte social de l'époque. À l'époque, là, Paul écrit non pas à des Juifs, mais à des Romains qui sont à Éphèse. Et dans cet environnement, la famille est organisée autour de grandes maisonnées, de villas dans lesquelles vivent un homme, le pater familia, le père de famille, avec son épouse, les enfants, les esclaves. Tout le monde vit comme ça, au même endroit. Et le pater familia, c'est vraiment le maître de la place. Il a le droit de vie ou de mort sur ses esclaves. Il peut les vendre, il peut les mettre à mort. Et les enfants sont à son service, travaillent aussi pour l'exploitation, pour l'entreprise familiale. Et la différence entre un enfant et un esclave, c'est que l'enfant va hériter, mais il est au service du père, au service de la maison. Et c'est ainsi qu'est organisée la société romaine, autour de maisons, gouvernées par un homme, le pater familias. Et c'est dans cette société, dans cette organisation qu'arrive l'Évangile. Et l'Évangile va tout bouleverser, parce que avec l'Évangile, chacun a une relation directe avec son Dieu. Chacun reçoit des dons qu'il peut mettre en exercice dans la communauté. Chacun prend la parole lors du culte et le maître qui est là peut entendre son esclave prophétiser. Il peut entendre sa femme prier à voix haute. Et tout ça, ça vient bousculer cette société. C'est inimaginable pour l'époque que Dieu vive comme ça. Des relations directes avec tout le monde, bousculant les conventions sociales. Et il y a une, je crois, il y a une tentation pour ces chrétiens de vouloir vivre de la même façon dans la vie de tous les jours et de faire tomber l'ordre social. Et ce thème de respecter les conventions de la société dans laquelle on se trouve, c'est un thème qu'on retrouve dans les épîtres de Paul. Et il me semble que ce que Paul vient dire, c'est les chrétiens ne sont pas là pour révolutionner la société, mais ils sont là pour vivre différemment. On n'est pas là pour militer, pour faire changer l'organisation, mais se changer nous-mêmes, et nous changer nous-mêmes. Normalement, si c'est bien fait, le résultat est le même. Mais la méthode est différente. Au lieu de faire la révolution et imposer aux autres ce que nous voulons, la façon dont nous voulons qu'ils vivent, nous allons le vivre nous-mêmes. Et si cette façon est bonne, eh bien, elle sera contagieuse. Et c'est la façon de changer le monde par la contagion et non en imposant. Que dit Paul dans ce texte? En deux mots, à ceux qui sont subordonnés à d'autres, il leur dit « Soumettez-vous. N'allez pas à l'encontre de l'organisation sociale. » Et il le justifie. Il prend le temps de le justifier, peut-être parce qu'il y avait des débats, et justement, mais en Christ, ce n'est pas le cas. Donc, Paul le justifie. Parce que l'homme est la tête de la femme, de sa femme. Parce que Dieu commande aux enfants d'obéir. Parce que obéir à son maître, c'est plaire au Christ. Et la façon qu'il dit à chacun, c'est de le faire comme au Seigneur. Obéissez comme si vous obéissiez au Seigneur. Et j'ai l'impression qu'il semble dire, si vous ne pouvez pas vous soumettre à votre mari, à votre père, à votre maître, si vous ne pouvez pas vous soumettre à celui que vous voyez tous les jours, comment pouvez-vous vous soumettre à Christ? Et à ceux qui sont en position d'autorité, Paul dit attention, attention à la façon dont vous l'exercez. Être chrétien, ça doit se voir. Et vos femmes, vous devez les aimer comme votre propre chair. Vos enfants, vous devez ne pas les irriter. Vos esclaves, vous devez les traiter avec humanité et vous abstenir de menaces. Et dans les relations que vous avez en tant que position d'autorité, souvenez-vous que Dieu est présent. Dieu est présent. Aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Élevez vos enfants par les avertissements du Seigneur. Gérez vos esclaves, sachant que leur maître, c'est aussi le vôtre. Et il semble leur dire, vous êtes une image de l'autorité divine, un représentant de cette autorité qui vous est déléguée, vous devez, comme Dieu, exercer la bonté. Vous devez faciliter la vie de ceux dont vous vous occupez. Vous devez être au service de vos subordonnés. Et il leur dit, vous rendrez des comptes de ce que vous avez fait. Et ça, c'est un rappel qu'on a dans ce texte. Dieu est le maître des deux. C'est pas Dieu le maître des esclaves, Dieu le père des enfants, Dieu le mari, l'épouse. C'est Dieu avec les deux qui sont en relation directe avec lui. Et à la fin, les deux lui rendront compte directement de ce qu'ils ont fait. Voilà ce que c'est que d'être chrétien. Comme je le disais, être chrétien, ce n'est pas révolutionner l'organisation sociale par le haut, mais c'est vivre de façon différente. Les conséquences de l'Évangile, on ne les voit pas seulement à l'Église, mais elles se voient aussi dans la vie privée. Et elles se voient par une soumission mutuelle. Une soumission mutuelle. Comment est-ce qu'on peut être soumis les uns aux autres, à la fois quand on est en position d'autorité et à la fois quand on est en position de subordination? Il y a un exemple qui m'a aidé à comprendre ce texte. C'est un exemple que je tire de ma vie professionnelle lorsque je travaillais dans l'informatique. Et c'était très intéressant d'observer la façon dont mes chefs d'équipe, dont ceux à qui étaient au-dessus de moi, géraient les choses. Et j'ai eu un chef dont j'ai vraiment eu l'impression qu'il était au service de son équipe. Et je me souviens que parmi ses tâches, parmi ce qu'il visait, il cherchait à nous accompagner pour prendre de plus en plus de responsabilités, pour progresser, ce qui est demandé à la plupart des cadres de faire progresser leurs équipes. Et il se trouve que parfois dans le travail, on devait prendre des décisions. Je travaillais sur des applications informatiques, et une application très utilisée, qui était utilisée par des milliers d'utilisateurs. Et parfois, quand on la met en place et qu'il y a un problème dedans, eh ben, ça gêne beaucoup de monde, ça fait beaucoup de vagues. Et des fois, il y a des décisions difficiles à prendre, de ne pas lancer la nouvelle version de l'application, pourtant est attendue, parce qu'on estime que la mettre en œuvre apportera plus de problèmes qu'elle en résoudra. Décision difficile, hein. Tout le monde l'attend, et en même temps, on sait que si on la donne, elle va mal marcher. Et donc, il faut trancher. Il faut trancher, et dans ces situations-là, ce chef nous invitait à trancher, parce que si on veut progresser, il faut aller vers ça, tout en nous disant que si on ne voulait pas trancher parce que c'était trop difficile, ou si on ne voulait pas l'annoncer parce que c'était trop difficile, il pouvait s'en charger. Et j'ai vu là quelqu'un au service de son équipe qui cherche à la faire grandir et qui, quand c'est trop difficile, est capable de prendre la place, de prendre la foudre. Annoncer la mauvaise nouvelle, c'est aussi prendre les coups de ceux qui ne sont pas contents, parce qu'il est au service de son équipe. Il restait le chef, mais il réfléchissait à qu'est-ce qu'il pouvait faire pour nous faciliter les choses. Et je crois qu'on peut vivre ainsi la soumission mutuelle. Peu importe notre place dans la relation, dans l'équipe, dans l'organisation, on peut rechercher le bien de l'autre, on peut rechercher à lui faciliter la vie. Et ça, ça se vit individuellement, chacun pour sa part. Ce n'est pas les autres qui commencent à changer, c'est moi qui change d'abord. Je le disais tout à l'heure, on le vit dans la réciprocité. La réciprocité qui facilite le mouvement, que dans la communauté chrétienne, eh bien, si je progresse, mais l'autre le fait également, et ça m'encourage à avancer. La réciprocité entre chrétiens. Et je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir une parenthèse sur ce sujet. Je crois que c'est pour ça que, par ailleurs, Paul nous demande de ne pas nous associer avec des non-chrétiens, dans le mariage en particulier. C'est parce que si on veut vivre cette soumission en dehors du cadre de la réciprocité, eh bien, on s'expose à des grandes frustrations, de ramer tout seul. Même avec la réciprocité, c'est pas facile. Et si on prend ce texte sérieusement, on peut se sentir tout petit quand on essaye soi-même de l'appliquer. Et c'est ce qui m'est arrivé. Alors que je travaillais ce texte, j'ai eu l'occasion de m'accrocher avec mon épouse, de se sentir en échec face à ce texte, face à ce qui est demandé. Mais dans le même épître, un peu avant, au chapitre 3, Paul assure les Éphésiens, les personnes à qui il écrit, qu'il fléchit le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, dit-il, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Pour vivre ça, on a besoin de Dieu. C'est lui notre modèle et on a besoin de Christ qui habite en nous. On a besoin d'être fortifié par son esprit pour vivre ça. C'est dans son amour qu'on trouve la force d'être transformé pour vivre des relations renouvelées. Et Paul continue, à celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et à tout jamais. Amen. Si nous nous plaçons sous son autorité pour avancer, il peut nous transformer et faire encore bien plus que ce que nous imaginons. Alors, comment le vivre ? Comment le vivre, ce texte, dans notre monde occidental du XXIe siècle où on a du mal avec l'autorité et la soumission. Quelques pistes. Je pense que tout d'abord, il faut nous souvenir qu'être chrétien, ça a des applications pratiques et privées. Être chrétien, ce n'est pas seulement venir à l'église, venir au culte, participer au groupe de maison. Ce n'est pas seulement devenir membre de l'église et évangéliser. Ce n'est pas quelques signes extérieurs que je pose sur ma vie, comme par exemple choisir de me marier plutôt que de vivre en concubinage. Toutes ces choses sont importantes, mais elles ne sont pas tout. Être chrétien, c'est aussi vivre au quotidien, vivre dans le privé, changer ma vie. Et l'Église, nous sommes Église pas seulement comme nous sommes réunis le dimanche matin ici. Nous sommes Église également quand nous sommes dispersés dans le monde. Quand je suis à la maison avec mon épouse, quand je suis avec mes enfants, quand je suis au travail, à l'université, à l'école, je suis encore l'Église dans tous ces environnements. Des disciples qui font des disciples, c'est ce qu'on répète tout le temps. Il ne faudrait pas oublier le début. Une Église de disciples qui font des disciples. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne voulons pas seulement faire des disciples, nous voulons être nous-mêmes des disciples. Les disciples, ce n'est pas les autres. Les disciples, c'est nous-mêmes qui nous soumettons à ce que Dieu attend de nous. Être chrétien, ça a des implications pratiques et dans ma vie privée. Deuxième chose que j'aimerais retenir, c'est que nous vivons dans un monde où tous ne sont pas égaux. On peut le déplorer. On peut le déplorer d'autant plus que Dieu nous a créés égaux. Au premier jour, il n'y avait pas d'esclavage, pas de poids patriarcal. Même les relations entre l'homme et la femme sont des relations de semblable, de vis-à-vis. Et tout ce que nous vivons de domination, de lutte de pouvoir entre les hommes jusqu'au sein du couple, la Bible nous enseigne que c'est les conséquences de la chute. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Mais dans ce monde inégal, il est possible de vivre de manière harmonieuse. Et c'est ce qui est demandé aux chrétiens. Dans les contraintes que vous avez, vivez entre vous de manière harmonieuse. L'Église est invitée finalement à être une société prophétique, une société qui, par la façon dont elle s'organise, la façon dont elle vit les choses, parle au nom de Dieu, montre au monde ce que Dieu attend, le plan qu'il a. Et nous voulons vivre des relations différentes où on recherche l'intérêt des autres avant le sien. Et où cette recherche, où ces relations sont vécues avec joie parce que cette recherche, elle est réciproque. Les pas que je fais, ils sont encouragés par ce que fait l'autre. Et ça, c'est, comme je le dis, une société prophétique parce qu'elle montre à voir le royaume de Dieu. Elle est un avant-goût de ce qui sera. Alors, c'est sûr, il y a du travail. On attend pour s'y atteler. Et la troisième chose que j'aimerais retenir de ce texte, eh bien, c'est que ce texte lui-même est là, présent pour nous. Même si on n'est plus dans une société de maisonnées dirigée par des pater familias, même s'il n'y a plus d'esclavage, en tout cas ici, pour nous ne sommes pas en situation d'esclavage. Mais on peut s'inspirer de ce qui est écrit là pour la façon dont on vit le travail dans l'entreprise, quand on est dans une équipe avec un supérieur hiérarchique ou quand on mène soi-même une équipe. On peut s'en inspirer dans nos familles, même si on n'attend pas que nos enfants restent, même adultes, à travailler gratuitement à notre service. On peut s'en inspirer dans nos relations avec nos enfants, adolescents ou étudiants, ou même s'interroger sur la place, sur la façon dont on les éduque. Et en tant que parent, en tant que parent, s'interroger sur les relations qu'on a, de bien les vivre, et en tant qu'enfant, s'interroger sur la façon dont on respecte ses parents, qu'on soit adulte ou encore enfant. Et dans nos couples également, dans nos couples, nous sommes invités à vivre des relations renouvelées, Et c'est peut-être là que c'est le plus difficile, comprendre la complexité des relations entre le mari et sa femme. Et surtout, l'équilibre voulu par le Seigneur. Vivre la différence qu'il a placée entre les deux, en étant soumis l'un à l'autre, sans que l'un ne prenne le pas sur l'autre. Et je vous invite à relire ce texte, après cette prédication, on l'a vu, le texte de façon plus générale. Je vous invite à relire ce texte de façon particulière pour chercher dans ce texte qu'est-ce qu'il y a qui vous concerne. Non pas qui concerne ceux avec qui vous vivez, mais qu'est-ce qui concerne vous-même. Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi? Que puis-je changer dans ma vie? Alors, je vous donne comme ça du travail, des devoirs à faire à la maison. Mais j'aimerais terminer en disant, souvenons-nous que Dieu nous accompagne. Il nous accompagne dans cette transformation, dans cette volonté de vivre des relations renouvelées, de vivre dans la soumission mutuelle, de vivre cette organisation qui contribue à montrer à travers nos vies la beauté de son royaume. Je vous invite à la prière. Seigneur, finalement, si ce texte est difficile, c'est parce qu'il nous parle à nous personnellement et qu'il nous demande de changer. Et j'aimerais te prier que tu nous aides à le faire, parce que nous avons besoin de ton aide. J'aimerais te prier que tu ouvres nos yeux pour voir ce qui, dans nos comportements, ne va pas dans le sens de la soumission mutuelle que tu nous demandes les uns aux autres. Dans ce qui, dans nos comportements, dans nos relations, ne te rend pas gloire. Et j'aimerais te prier que tu nous aides à le changer. J'aimerais te prier que tu m'aides à changer mes comportements. Transforme-nous, Seigneur. Je te prie que ton Église, aussi bien quand elle est rassemblée ici que quand elle vit dispersée, chacun dans sa maison, avec ses proches, dans son environnement, que ton Église puisse témoigner de ce que nous vivons en paix et que nous vivons une soumission joyeuse, joyeuse parce que elle est réciproque et dans ta volonté. Je prie au nom de Jésus.